Thank you, Brother Anderson.
Merci, Frère Anderson. Nous sommes enthousiastes et de faire partie de cette œuvre. En préparation pour aujourd'hui, j'ai prononcé mon discours devant ma famille et je lui demandais son avis. Et cela a été presque entièrement utile. Le retour, j'hésite à le reconnaître, haut et fort, je suis certain que personne d'entre vous n'a reçu un pareil en classe, c'est qu'Annie, notre fille de 12 ans, s'est endormie à la moitié du discours. Alors, elle et moi, nous espérons que cette version est meilleure. Ces deux dernières années, Frère Webb nous a demandé d'aider nos élèves à lire les Écritures d'une manière qui a profité leur foi au Sauveur. L'an passé, plus d'élèves que jamais ont lu les Écritures. Ils ont passé 9 millions d'heures, à étudier personnellement les Écritures. Merci de vos efforts. Aujourd'hui, nous renouvelons cette demande. Voulez-vous aider chaque élève du séminaire et de l'Institut à vivre une expérience marquante en étudiant les Écritures chaque jour? Certains passages dans l'Ancien Testament sont difficiles à lire et à comprendre pour nos élèves, mais je crois sincèrement que nous n'avons pas à nous glisser derrière eux et leur murmurer l'Ancien Testament à l'oreille. Frère Webb nous a aussi demandé de voir comment nous pourrions nous focaliser encore plus sur les Écritures que nous enseignons. Il a posé une série de questions sur le rôle que jouent les Écritures dans notre enseignement. Beaucoup d'entre vous ont réfléchi soigneusement à ces questions. Merci. Aujourd'hui, parlons un moment du rôle que jouent les Écritures dans notre préparation pour enseigner. En mai 1829, Joseph et Emma vivaient à Harmony, en Pennsylvanie. Hiram était venu leur rendre visite et espérait apprendre son rôle dans le déroulement du rétablissement. Le prophète a interrogé le Seigneur, qui lui rappela que la parole est rapide, puissante et plus acérée qu'une épée à double tranchant. Le Sauveur enseigna ensuite à Hiram et à nous un principe et une priorité tandis qu'il établissait une séquence importante pour les enseignants. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. Et alors, ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole. Oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Nos efforts pour enseigner ne commencent pas quand nous en préparons une leçon, ou que nous demandons comment la donner, ou même lisons le cours. Nos efforts pour enseigner commencent en fait ad fontes, c'est-à-dire à la source. Comme l'a dit le président Romney, il n'y a pas de meilleure préparation pour enseigner que de s'abreuver profondément à la source, là où l'eau sort du sol. Si nous voulons enseigner les Écritures avec puissance, si nous voulons que nos élèves ressentent la vérité et l'importance d'un passage, cela doit nécessairement commencer par un enthousiasme plein de fraîcheur chez nous. Le président Romney a donné ce conseil. Pour bien enseigner l'Évangile, nous devons travailler, étudier, jusqu'à ce que les enseignements du Seigneur soient devenus les nôtres. Alors, nous serons préparés à parler avec puissance et conviction. Si nous choisissons de suivre un autre mode de préparation, nous exprimerons nos idées ou celles de quelqu'un d'autre. Et alors, nous n'aurons pas de garantie de succès. Je vais mentionner deux idées simples qui doivent nous guider dans nos efforts pour obtenir la parole de manière à ce que les Écritures brûlent en nous. Premièrement, il y a une hiérarchie des vérités. Et si nous apprenons à discerner cette vérité, ce sera une bénédiction pour nous et pour nos élèves. Deuxièmement, les Écritures contiennent des liens, des modèles et des thèmes, entre autres, des préfigurations et des ombres. Mais la plus importante nous oriente vers le Sauveur. Pour commencer, Frère Maxwell a parlé d'aristocratie entre les vérités et a dit que certaines méritent notre loyauté, un mot qui suggère la fidélité ou l'obéissance. Il a dit, certaines peuvent être à la fois vraies et sans importance. Nous devons non seulement distinguer entre les faits et l'imagination, mais aussi savoir quels faits méritent notre loyauté. L'évangile de Jésus attire notre attention vers la réalité qu'il y a une aristocratie entre les vérités. Certaines vérités sont simplement et éternellement plus importantes que d'autres. La plupart des passages d'Écriture comportent des détails. Les détails inspirés qui sont inclus éclaireront les principes qui sont destinés à expliquer. Nous devrions être d'excellents étudiants, à la fois des détails et de la doctrine contenue dans les Écritures. Il est important de comprendre que les détails scripturaires enseignés, indépendamment de la doctrine et en soi, ne font qu'informer. Ce mode d'enseignement ne nous nuira pas si l'Esprit est présent, ni ne nous sera utile s'il est absent. Par ailleurs, un enseignement qui non seulement comporte des histoires, des réflexions et des sentiments personnels engendrés par des discussions, mais en plus est dénué de la substance nécessaire pour enseigner la vérité et inspirer, manque tout autant la cible. Nos élèves seront le mieux servis par des instructeurs qui sont excellents d'étudiants des Écritures, qui comprennent le rôle essentiel du Saint-Esprit. J'ai entendu des gens parler d'enseignements spirituels qui manquent d'érudition. J'en ai entendu d'autres parler d'enseignements érudits qui manquent d'esprit de conversion. Seuls, ni l'enseignement spirituel ni l'érudition ne répondent aux demandes de l'éducation religieuse. Robert Matthews a dit un jour, le mot « religion » signifie littéralement « relié à ». Il est lié au mot « ligament » qui attache le muscle à l'os. L'éducation religieuse est censée relier nos élèves à Dieu et aux choses sacrées. Le détail scripturaire signale souvent des vérités précieuses. Quand on enseigne la vérité en rendant témoignage, cela ouvre la porte à la révélation, et le Saint-Esprit applique l'expiation à notre vie, ce qui accroît notre conversion au Sauveur et notre engagement à suivre le plan de notre Père Céleste. L'Ancien Testament comporte, à n'en pas douter, des récits spectaculaires, des coutumes fascinantes et de belles formes littéraires. Il est important que nous nous rappelions et que notre enseignement reflète le fait que ces détails ne sont pas la raison d'être du passage. Comme on nous l'a enseigné, les Écritures ont été rédigées pour préserver les principes. Ces principes sont la substance et la raison d'être des révélations. Enfin, même parmi les principes, il y a un ordre, car les principes fondamentaux de notre religion sont le témoignage des prophètes et des apôtres concernant le Sauveur. Distinguer les détails des principes et apprendre à reconnaître les hiérarchies existantes parmi ces principes sera la quête de toute une vie. Si nous enseignons chaque détail de l'histoire et de la loi, et si nous enseignons chaque détail des pérégrinations d'Israël, et que nous ratons le message du plan de notre Père Céleste et l'expiation de Sauveur dans l'Ancien Testament, nous n'aurons pas enseigné le message de l'Ancien Testament. Il ne fait pas de doute que Paul me l'écrivait moi, et peut-être certains de nos élèves, quand il disait qu'un voile demeurait dans la lecture de l'Ancien Testament. Il a ensuite donné une solution à ce dilemme quand il a dit que ce voile disparaît dans le Christ, et quand notre cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Si notre enseignement se concentre sur le Sauveur, et si nous pouvons aider l'esprit et le cœur de nos élèves à se tourner vers lui, le voile sera ôté quand ils liront l'Ancien Testament. Et, plus important peut-être, en apprenant à rechercher le Sauveur dans leur étude des Écritures, nos élèves apprendront une leçon parallèle et commenceront à apprendre aussi à le rechercher et à rechercher la main du Père dans leur vie. Je vais vous faire une suggestion qui nous aidera à discerner la vérité dans les Écritures. Prenez un passage, lisez-le et demandez-vous, quels sont les détails de ce passage? Soulignez les gens, les lieux, la chronologie, l'intrigue. Cherchez le contexte général du passage et soulignez tous les détails du contexte que vous trouvez. Comme le suggère notre manuel, notez les pauses naturelles, les changements de ton et ou de contenu. Relisez ce passage et cette fois, demandez-vous, quels sont les principes ou les vérités présentées pour qu'on les applique et qui, si on les comprend, mèneront à l'obéissance. Étudiez le contexte global. Marquez chaque principe d'une manière différente que les détails. Si les principes sont implicites, prenez le temps de les noter par écrit. Le faire consciemment sera difficile au début. Cela demandera la concentration et prendra du temps. Entre autres bénédictions, cette discipline nous amène à nous demander continuellement quels sont les détails de ce passage et quels sont les principes qui sont censés enseigner. Comme nous l'avons déjà dit, certains principes sont plus importants que d'autres. Ils suscitent plus d'inspiration, de vie et de salut parce qu'ils nous orientent vers le Sauveur. Donc, relisez le passage, cette fois d'une autre perspective, et demandez-vous, comment ce passage est-il conçu pour attirer mon attention vers le Sauveur? Qu'est-ce qui porte ici à plus de compréhension, de gratitude et de confiance en lui et dans le plan de notre Père Céleste? Enfin, réfléchissez soigneusement à ce que les prophètes modernes ont dit, qui ajouterait à la compréhension de ce passage et l'inspiration qu'il donne. Après avoir étudié ainsi, quand nous passons au texte du cours, la compréhension, les suggestions et la direction supplémentaire qu'il procure s'associeront à la perception, à l'inspiration, à l'expérience que nous avons reçue en lisant les Écritures et les paroles des prophètes. Le texte du cours confirmera alors, affinera et soulignera les effets de notre préparation pour déclarer la parole avec puissance. Par exemple, quand nous étudierons le livre de Ruth cette année, nous pourrons y voir une histoire touchante de deuil et de loyauté. Ou bien, en réfléchissant à cette hiérarchie de vérité, nous pourrons remarquer que Ruth avait perdu son mari, qu'elle s'était rendue à Bethléem, et que c'est dans cette ville qu'elle a rencontré Boaz. Nous pourrons alors remarquer que Boaz a répondu aux besoins de Ruth, lui a donné du pain et une coupe de vinaigre de vin, a intercédé pour elle à la porte de la ville, puis a exercé un droit de rachat, a littéralement rédimé Ruth, l'a rachetée, l'a prise pour femme, et ne se donna point de repos qui n'ait terminé cette affaire. Alors, nous pourrons commencer à percevoir le témoignage voulu d'amour et de rédemption et être édifiés et inspirés en prenant conscience que le grand Rédempteur fait la même chose pour chacun de nous. Ce n'est là qu'un exemple de manière de sonder les Écritures. L'instructeur attentionné aidera ensuite chaque élève à vivre personnellement la même expérience d'étude en devenant spirituellement autonome. Mes frères et sœurs, à chaque page des Écritures, nous faisons un choix qui a des répercussions sur le pouvoir d'enseignement et d'apprentissage dans nos classes. Ce choix est suivant. Vers quelle vérité allons-nous tourner l'esprit, le cœur et la foi de nos élèves? Ce choix fait une différence énorme dans la portion de la parole qu'ils intègrent à leur façon de penser et à leur comportement. Si je ne suis pas diligent à cet égard, si je choisis de laisser la vérité inférieure dominer mon enseignement, alors, comme l'a enseigné le président Eyring, j'ai presque renoncé à lutter pour aider un élève à résister à la marée de fange. En plus de reconnaître la hiérarchie de vérité, une deuxième idée simple qui peut nous aider à obtenir la parole est que les Écritures regorgent de liens, de thèmes et de préfigurations. Je vais donner un bref exemple de chaque tiré de l'Ancien Testament. Frère Benna a expliqué qu'un lien est un rapport entre des idées, des gens, des objets ou des événements. Un lien que nous pouvons relever est que l'Ancien Testament abonde en histoires de réussite et d'échec, et que ces histoires sont souvent relatées de manière comparative, en parallèle. Caïn et Abel, Joseph et ses frères, Jacob et Ésaü, Abigail et Nadab, etc. Le président Haring a noté une clé. Dans la description d'un échec, il y a l'ombre de la voie de la réussite. Les cycles récurrents de déclin spirituel et de guérison peuvent être porteurs d'espoir et d'enseignement pour vos élèves. Les thèmes sont des qualités ou des idées centrales, récurrentes et unificatrices, comme des fils conducteurs qui parcourent tout un texte. Un thème que nous pourrons relever cette année est exprimé dans cette phrase. « Vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu. » Tout au long des fléaux qui précédant leur libération, comme des miracles qui ont suivi, il est dit aux enfants d'Israël que par ces choses, ils sauraient que c'est l'Éternel qui les guidait. La mort de Goliath, la guérison d'Aman, la rencontre d'Élie avec les prêtres de Baal, ainsi que les espérances sacrées solennelles de Daniel avec le roi Nebuchadnezzar, sont toutes rapportées dans l'intention déclarée que toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. Tout au long des livres des psaumes, d'Ésaïe et d'Ézéchiel, dans 17 livres de l'Ancien Testament et à plus de 80 reprises, Jéhovah répète, souligne et assure qu'Israël et nous devons le voir et voir sa main dans les événements, les enseignements de l'Ancien Testament, afin que nos enfants et nous sachions, du soleil levant au soleil couchant, que hors de lui, il n'y a point de Dieu. Quand nous étudierons les thèmes scripturaires dans les nouveaux cours Cornerstone de l'Institut, les Écritures seront liées ensemble de telle manière que quand nous sonderons l'une, nous serons amenés à l'autre. Si les Écritures sont l'étude principale de ces cours, elles croîtront ensemble et amèneront nos élèves à la connaissance de leurs alliances. Frère Bernard a déclaré, la recherche des thèmes scripturaires nous conduit à des vérités éternelles qui ouvrent la porte à la confirmation par le Saint-Esprit. Cette approche pour obtenir l'eau vide du réservoir scripturaire est la plus exigeante et la plus rigoureuse, mais elle mène aussi à l'édification la plus grande. Elle exige plus, pas moins, de nous, instructeurs. Il y a de nombreux modèles dans l'Ancien Testament. L'un attire particulièrement notre attention et demande nos efforts. Il s'agit bien entendu de la recherche des témoignages de notre Père Céleste et du Sauveur. Bruce McConkie a dit, « Il est bon de rechercher les similitudes du Christ partout et de les utiliser souvent pour le garder et garder ses lois au premier plan dans notre pensée. Commencer à répertorier les symboles, les ombres du Sauveur, revient presque à compter les gouttes d'eau d'une rivière ou les particules de lumière un jour de soleil. Après tout, tout ce qui a été donné par Dieu à l'homme depuis le commencement du monde préfigure le Christ. La création, le serpent d'airain, la manne, la libération d'Israël de la servitude en Égypte par le sang d'un agneau peint sur les chambranles de leurs portes, et toute la loi de Moïse, avec son système de sacrifice et de rappel, sont consciemment et évidemment conçus comme un pédagogue pour nous amener à Christ. L'acceptation d'Abraham de sacrifier Isaac, les titres de Melchizedek, dont celui de prince de la paix, le salut que Joseph apporte à ses frères qui l'ont vendu, et la libération que Moïse apporte aux enfants d'Israël, font d'eux des préfigurations de celui qui devait venir. Adam était un homme parfait qui, quand il se trouvait dans le jardin, a volontairement choisi de donner sa vie pour que nous vivions. Le roi décida d'établir Daniel gouverneur de tout le royaume, du fait de l'excellent esprit qui était en lui. Les gouverneurs et les princes, ceux qui avaient des postes d'autorité et qui étaient Daniel, cherchaient une raison de l'accuser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors ces hommes méchants s'assemblèrent et se consultèrent. Entre-temps, Daniel se retira en un lieu où il avait l'habitude de se rendre, Et là, il pria. L'apprenant, le roi était décidé à délivrer Daniel. Ensuite, après que Daniel eut été envoyé à une mort certaine, on apporta une pierre, on la posa sur l'entrée de la fosse. Dès son lever, le roi se rendit toute hâte à la fosse et découvrit qu'un ange y avait été. Et l'on sortit Daniel de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui. Alfred Adersheim a dit que tout l'Ancien Testament a pour but de nous orienter vers le Sauveur. Ce n'est pas seulement la loi qui est un pédagogue, les symboles qui sont des ombres de lui, ni même les prophéties qui sont des prédictions de lui, mais toute l'histoire de l'Ancien Testament est pleine du Christ. Il s'ensuit une chose. Seule une étude des Écritures qui nous fait connaître le Sauveur peut être suffisante ou profitable. Tout au long de vos cours, et chez vous, et dans votre famille, veuillez prendre le temps de demander à vos élèves et à vos enfants ce qu'ils apprennent et en quoi cela les aide à comprendre notre Père céleste et Sauveur et à placer leur confiance en eux. Et dès le premier jour de cours, veuillez enseigner à vos élèves à chercher systématiquement ces magnifiques témoignages qui ont été placés intentionnellement par ces auteurs inspirés. Mes frères et sœurs, les Écritures ont un rôle irremplaçable dans notre enseignement et dans notre préparation pour enseigner. Rappelez-vous cette mise en garde du président Romney. Nous sommes chargés de transmettre ce que nous recevons du Seigneur, les Écritures, aux personnes que nous instruisons. Parfois, nous pouvons tenter de transmettre avant l'avoir obtenu. Il peut arriver que nous voulions prêcher avant de donner au Seigneur la possibilité de nous préparer. Dans cet esprit, j'ajoute quelques questions à celles que nous a posées Frère Webb l'année dernière, et je vous invite à l'examiner dans notre préparation pour enseigner. Est-ce que je commence ma préparation pour le cours en sondant les Écritures? Est-ce que je me fais un festin des Écritures que j'enseigne aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont comme un feu qui consume mes os? Est-ce que je comprends les détails et les points de doctrine que l'auteur inspiré voulait me faire voir et comprendre? Ai-je songé les paroles de prophètes pour y trouver l'accent, la compréhension et le témoignage qu'ils apportent à un passage? Dans chaque circonstance, ai-je recherché et trouvé les façons dont le passage témoigne du Sauveur et de son expiation? Dans nos cours, puisse la parole être plus acérée qu'une épée à double tranchant, parce que les Écritures brûlent en nous. Puissions-nous avoir la détermination de distinguer les détails de la doctrine digne de loyauté? Et puissions-nous aider nos élèves à apprendre à découvrir les magnifiques témoignages scripturaires du plan de notre Père Céleste et de son Fils bien-aimé? J'ajoute au vôtre mon témoignage, en particulier de l'amour de notre Père Céleste, manifesté et rendu accessible par la miraculeuse expiation de son Fils. Et j'exprime ma gratitude pour l'insigne honneur de faire partie d'un merveilleux rétablissement qui fait connaître son nom sur la terre à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.